Périclès, c'est un acronyme de patriote, enracinant, résistant. Ouais, chrétien, libéraux, projet. Mais c'est comme toutes les idées qui sont reprises aujourd'hui par tous les mecs d'extrême droite. Ils l'utilisent à leur propos, c'est bien le problème.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Zoom Zoom Zen, 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ces mots. Et aujourd'hui, au moment d'évoquer le projet Périclès du milliardaire Pierre-Édouard Sterrin, qui vise globalement à imposer dans les médias et la classe politique des valeurs ultra-conservatrices et catholiques, je suis traversé par une drôle de sensation. Comparable à celle qu'avait probablement dû connaître le roi de Troie, lorsque les Grecs lui avaient offert un magnifique cheval en bois, et qu'il s'était dit « Oh, c'est joli ça, ça fera bien sur la place centrale », alors qu'au fond de lui, il sentait bien qu'un truc clochait, il sentait bien qu'il était en train de se faire enfler. Moi, c'est pareil, je m'apprête aujourd'hui avec mon invité à décrypter le projet Périclès, et pourtant je sens que quelque chose ne tourne pas rond. Je repense à ces derniers mois et à un moment clé me revient en mémoire, ce jour où Pierre Courade a sonné à la porte de Zoom Zoom Zen. La question s'était posée, est-ce qu'on le laisse entrer ou pas ? Manon, la plus à gauche d'entre nous, était contre. Il est vrai que sa scolarité dans un établissement catholique privé de Lourdes et ce tatouage « Bruno Retailleau est mon sauveur » sur l'avant-bras indiquaient qu'on n'avait pas affaire à un militant de la CGT. Cyril, lui, quoique trouvant Retailleau un peu laxiste sur l'immigration, a estimé qu'on pouvait faire confiance à Pierre Courade. Et donc, après un démocratique vote à main levée où Cyril a voté pour et Manon, Quentin et moi contre, Pierre a intégré l'équipe. Le cheval de Troie est entré dans la place, qui plus est au poste stratégique de rédacteur en chef adjoint en régie. Il vient d'ailleurs d'envoyer un message à Pierre-Édouard Sterrin. « T'inquiète mon Pierrot, tout est sous contrôle, je veille au grain. Emoji main en prière, hashtag croix du Christ. Zoom zoom zen, c'est parti. »
Zoom zoom zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Camille Vigogne-Lecoat.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes journaliste, grand reporter au service France du Nouvel Obs. Vous avez publié une enquête en février dernier avec Lucas Burel sur le système Pierre-Édouard Sterrin et son fameux projet Périclès. L'article s'appelait « Pierre-Édouard Sterrin, saint patron des réacs ». Qui est ce milliardaire qui rêve d'instaurer un pouvoir réactionnaire en France et comment compte-t-il s'y prendre? Vous allez tout nous expliquer. Juste le temps de vous présenter mes fidèles acolytes, des wokistes de la première heure, qui viendront grossir les rangs de France Travail, qui en Pierre-Édouard Sterrin aura racheté Radio France. On s'y retrouvera tous d'ailleurs. Oui. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
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 Bonjour à tous.
Non mais on partira avant, on fera pas comme vous, on n'attendra pas que Bolloré arrive.
Ça dénonce.
Vous attaquez ma carrière comme
non.
Ça
ah non, pas votre carrière. Pas votre carrière.
Si.
On partira avant.
Oui. Et donc vous démarrez le quiz avec 2 points de pénalité, ce qui est logique. En attendant,
ouais. Bien placé, Quentin.
En attendant que le projet Périclès devienne réalité et qu'on finisse tous sur Champ de France, où cela dit, Quentin, vous serez à votre place.
En ce temps-là, c'était Paris.
Ah, je chanterai les disques. Ça sera plus pratique.
Évidemment, ça sera beaucoup plus pratique.
Ça fera
des économies.
Le
compte loup
de Champ de France. Ça sera super.
Rien que cette appellation est sexy. Je vous propose de profiter encore un peu de ce sursis qui nous est offert en évoquant vos missions respectives dans l'émission. Manon, vous nous brossez le portrait de l'autre personne à suivre sur le projet Périclès.
Oui, le nouveau directeur général de Reporters sans frontières qui a fait de l'Empire Bolloré une cible à combattre.
Face à vous, Camille, un véritable caméléon qui aujourd'hui dit aimer les idées progressistes et Vincent Delerme, mais qui demain, si Sterrin devait gagner la partie, n'aurait aucun problème à se faire baptiser et à écouter du Sardou qu'il diffuserait sur Radio Courtoisie sans aucun scrupule.
C'est exactement ce qui se passerait
et vous le savez très bien, on le sait tous.
Vraiment.
Un opportunisme qui fait sa force lorsque dans la rue il aborde les passants pour les faire réagir à notre mot du jour. Alors, Périclès, il connaissait ?
Eh bien non, ils ont découvert avec moi, évidemment, le plan de votre voisin de palier, Pierre-Édouard Sterrin, Mathieu. J'ai donc pris le temps de
J'ai pas de voisin de palier, je suis seul sur le palier.
Oh là là.
Ah bah là, ça doit être l'étage du dessus.
C'est le penthouse.
Juste celui d'après. De Noël.
Vous habitez en Belgique ?
Non, pas du tout. Alors pas du tout, déjà, pas du tout. Non. Moi, je paye mes impôts en France, madame.
Mais j'ai pris le temps de faire un peu de pub, de publicité pour ce projet, sans être rémunéré. Donc c'est pas ma meilleure journée.
Ah oui, non, ça
effectivement.
Ça fait bizarre de pas être rémunéré, vous.
Bah, pour parler de Périclès, oui.
Vers 16h30, un milliardaire réac, ça va, plusieurs milliardaires réac. Bonjour les dégâts. Dans le Zoom Zoom Test, nous partirons à la rencontre de tous les Sterrins du globe qui, parfois au vu et au su de tous, parfois en secret, se battent à leur manière pour un monde meilleur. Juste avant 17h, on verra si Gigi Pop a le courage de critiquer un milliardaire qui pourrait bien être un jour son employeur. Et puis après 17h, nous remonterons le temps, comme chaque vendredi, direction aujourd'hui, l'an 2000. Pour un Zoom Zoom Back, dont le fil rouge sera évidemment le fameux bug de l'an 2000 qui est finalement arrivé beaucoup plus tard, en 2023, quand Cyril a essayé de parler anglais.
Confessions of a work alcoholic, the facts about work addiction.
Mais d'abord, Camille Vigogne-Lecoq, commençons par le commencement, puisque c'est le mot qu'on a choisi de décrypter aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ce projet Périclès, et ça veut dire quoi, Périclès?
Alors Périclès, c'est le nom d'un stratège athénien, mais en l'occurrence, on ne s'intéresse pas tellement à celui qui a inventé la démocratie radicale, on s'intéresse à 8 lettres, un acronyme. Alors j'en oublie toujours une, je vais essayer d'être complète. Périclès, patriote, enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libertaire, européen et souverainiste. C'est déjà tout un programme.
Ah, c'est un beau programme, mais au milieu, on y reviendra, il y a ce mot européen qui peut être surprenant. Moi, je pensais que c'était plus franco-français.
Non, européen. Il y a cette tradition dans la droite radicale et à l'extrême droite de penser l'identité chrétienne européenne comme quelque chose d'important.
Mais c'est la pensée chrétienne qui est européenne.
Mais on a quand même patriote et souverainiste.
Oui, on l'a bien noté. Il est celui qui a fait entrer le loup dans la bergerie. C'est lui qui nous avait dit « Mais non, Courade, il est pas réac, il a juste un petit côté scout qui vous défrise, je m'en porte garant. » 10 mois plus tard, le résultat est là, Zoom Zoom Zen a fait une percée chez les identitaires de droite, devenant même l'émission la plus podcastée dans la région du Puy-du-Fou. Merci Cyril, merci vraiment.
Ça m'étonnerait.
Pour vous faire pardonner...
Ça serait une grosse surprise.
Oui, ça serait... On regardera les chiffres. Merci de nous raconter, Cyril Pierre-Édouard Sterrin. D'où ça sort ?
Eh bien, c'est un nom encore largement méconnu du grand public et pourtant, vous avez déjà certainement acheté une de ces fameuses Smartbox. Pourquoi vous marrez ?
Parce que j'ai dit d'où ça sort.
Pierre-Édouard Sterrin, d'où ça sort ?
De sa mère, peut-être.
Mais ce sont les joies du direct.
Voilà. Oui, ce sont les joies du direct. On va pas recommencer du coup.
Non.
C'est Pierre-Édouard Sterrin, effectivement, à qui vous avez acheté cette Smartbox et c'est lui qui a inventé ces boîtes cadeaux pour offrir un week-end en amoureux à votre partenaire de vie et ça a fait sa fortune. 1,4 milliard d'euros sur son compte en banque, 94e fortune française, mais qui s'est installée en Belgique pour payer moins d'impôts, pas 100% patriote quand même, le Sterrin. Jusqu'à il y a un an, son nom passait sous les radars des médias comme des Français, il y avait bien quelques articles, par exemple celui de l'Express qui l'avait dépeint comme le milliardaire qui veut évangéliser la France, mais globalement il n'intéressait pas grand monde, mais ça a changé.
Et pourquoi ça ?
Eh bien parce que sa petite entreprise qui ne connaît pas la crise lui suffisait plus. Lui aussi, il voulait peser dans le game de l'influence. Il s'est donc dit qu'il allait faire comme ses copains du club des milliardaires, se payer un média. Et il a tenté Marianne. Le magazine était à vendre, il s'est dit que ça pouvait lui faire une belle vitrine. Seul problème, la rédaction a dit qu'elle ne voulait pas de lui. Qu'elle ne voulait pas que Marianne devienne un tract de l'extrême droite et qu'il ne fallait pas mélanger extrême droite et souverainisme, celui du journal. Donc Sterrin a remballé ses gaules. Même s'il demeure très discret, cette tentative de se payer un titre de presse a mis en lumière la personnalité du bonhomme et attiré l'attention aussi de la classe politique, au point de le convoquer pour une commission d'enquête concernant l'organisation des élections en France. Convocation à laquelle il a décidé de ne pas répondre, par deux fois. Alors il a bien dit « ok, mais par visio », et ça les députés refusent. Alors, jusqu'ici, pas de Sterrin à l'Assemblée. La justice a été saisie, mais personne ne va le menotter pour venir répondre aux questions. On n'est donc pas prêt d'entendre sa voix, mais ça ne va pas nous empêcher d'en parler pendant une heure.
Merci bon Cyril. Et surtout, merci d'avoir fait revivre cette expression qui dormait dans la naphtaline depuis longtemps, remballer ses gaules. On l'avait pas entendu depuis
jamais
longtemps.
Entendu de ma vie.
Si, en 62, Pierre Joxe. Mais si.
C'est une expression de pêche. C'est vraiment un truc.
C'est le côté pêcheur de Cyril, effectivement.
Très, très pêcheur.
Merci beaucoup, Cyril. Déjà, alors, Camille Vigogne-Lecoq, pourquoi Pierre-Édouard Sterrin est-il convoqué à l'Assemblée nationale dans une commission d'enquête sur l'organisation des élections en France?
Alors, il a été convoqué. Alors, cette commission d'enquête, elle a vraiment un but assez large. Elle s'intéresse à tout ce qui concerne la transparence et l'équité des élections. Donc ça va de la non-inscription ou mal-inscription sur les listes électorales. Ça concerne également les prestataires pour l'impression des tracts, etc. Mais aussi les sondages. Et comme Pierre-Édouard Sterrin a parmi ses multiples ambitions et déclarations affiché la volonté de notamment racheter un institut de sondage, il a été convoqué notamment pour expliquer en quoi celui qui assume publiquement de vouloir imposer ses idées à la tête de la France, trouverait ça intéressant d'acquérir un institut.
Il pourrait en racheter un ?
Oui, il pourrait. Il y a des instituts qui ne sont pas très chers. Je me suis renseignée. Alors pour
C'est quoi pas très cher, un institut pas très cher ?
Pour quelques centaines de milliers d'euros, on peut avoir un institut. Oui. Alors ça dépend de la taille, mais il y a des petits instituts de sondage. Puis c'est pratique parce qu'en fonction de comment on pose la question, les sondeurs expliquent tous qu'on obtient, on sait à peu près quelle réponse on obtient. Ça permet de nourrir des obsessions et ça permet d'alimenter des médias ou des des think tanks amis, et ça contribue à la construction d'un écosystème de droite et d'extrême droite qui est le projet de Pierre-Édouard Sterrin.
Ce Pierre-Édouard Sterrin, il est insaisissable, il refuse de se rendre devant une commission d'enquête de l'Assemblée. Vous l'avez rencontré, comment on fait pour le rencontrer, cet homme-là?
Alors on lui envoie un SMS de façon très simple, hein, j'ai pas été chercher très loin. En fait, moi, ça fait des années que je m'intéresse à Pierre-Édouard Sterrin. Ça a été dit, il était complètement méconnu du grand public. Moi, j'entends pour la première fois son nom prononcé en 2019. À l'époque, je travaille sur l'entourage de Marion Maréchal et je découvre ce milliardaire étrange, discret, qui refuse de répondre aux questions de la presse. Et petit à petit, j'essaie de récupérer des éléments et j'apprends qu'il organise à l'époque des speed dating politiques pour trouver le candidat idéal qui correspond à ses idées. Et je mettrai plus de 2 ans à réussir à écrire un article à l'époque, donc c'était dans l'Express.
Il vous a ghosté pendant un moment.
J'appelle ça les petites noisettes, quoi. J'ai essayé de récupérer des éléments au gré des interlocuteurs
pour
réussir à...
Il n'était pas flatté d'avoir un article?
Alors, à cette époque, non, ça arrivait un peu tôt, d'autant plus que ça arrivait à un moment où il était très déçu de ses speed dating et qu'il cherchait à se réinventer, à trouver une nouvelle stratégie qui amènera à la stratégie d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a beaucoup hésité, qui a beaucoup pensé au début que la politique, ça marchait comme du business, ça marchait comme une entreprise, et qui a été beaucoup déçu aussi. Il a changé de stratégie. Et donc, j'ai un premier échange long avec lui en 2023 ou fin 2022. Et puis, cette année, en janvier, je suis allée le voir
en Belgique, à Waterloo, parce qu'il habite à Waterloo.
Il est effectivement juste à côté du petit village où il est exilé fiscal depuis la victoire de François Hollande. Et on a eu un long entretien avec lui, avec Lucas Burel, et c'était particulièrement intéressant parce qu'il a répondu à beaucoup de questions.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Cacher ce Sterrin que je ne saurais voir. La grand reporter, oui, c'était un jeu de mots assez finement trouvé, merci de rire. La grand reporter au Nouvel Obs, Camille Vigogne-Lecoat, est avec nous cet après-midi pour décrypter le fameux projet Périclès et son instigateur, le milliardaire d'ultra-droite, Pierre-Édouard Sterrin. Alors, pour bien comprendre, il a créé cette plateforme Périclès. C'est quoi? C'est une société? C'est une association? Un think tank? Un parti politique? C'est quoi sa stratégie?
Périclès, c'est un projet métapolitique. C'est un gros mot pour dire on fait de la politique non partisane, en tout cas pas à l'intérieur seulement d'un parti politique, qui vise à acculturer la société et faire progresser les idées de Pierre-Édouard Sterrin dans l'espace public. Il a été contraint et forcé de dévoiler ce projet parce que certains journalistes, dont le journal L'Humanité, ont publié des documents qui expliquaient son plan très détaillé. À l'origine, c'était pas formulé dans ce projet-là, c'était à l'intérieur d'un de ces deux grands deux entreprises qui était le Fonds du bien commun. Et c'est ce Fonds du bien commun qui a vocation à être des projets de philanthropie sur le papier assez consensuels, il y en a qui le sont vraiment. Finalement, à l'intérieur, on était plusieurs à enquêter et à repérer qu'à l'intérieur de ce Fonds du bien commun, il y avait des projets catholiques identitaires, des projets tendance anti-avortement, des projets carrément plus politiques. Et donc, il a sorti de ça du Fonds du bien commun et maintenant, c'est dans Périclès.
C'est dans Périclès. Mmh. Mais ça, c'est quoi concrètement, par exemple, ces associations dans lesquelles ils investissent?
Alors, c'est très vaporeux là aussi, très nébuleux. Il a sorti une liste d'associations de think tanks dans lesquelles il met de l'argent. Ça va de certains journaux, des chaînes YouTube d'extrême droite, des associations contre les hausses d'impôts, contre le racisme anti-blanc, contre l'immigration. C'est tout un tas de petites associations, mais encore, c'est compliqué de mesurer la réalité de ces investissements. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'il annonce et il y a ce qu'il cache. Et on sait qu'il cache beaucoup, parce qu'on a enquêté avec Lucas Burel. Il y a un énorme décalage entre les investissements qui sont annoncés, en l'occurrence 20 millions d'euros déclarés investis en 2025, 150 millions en 10 ans dans le projet Périclès. Alors si on parle juste de 2025, on a regardé, on est allé demander à chacune des associations citées sur le site combien vous avez reçu.
C'était
et toutes nous ont
ça.
Dit 3 000, 4 000, 5 000, 10 000. Ça fait pas du tout 20 millions. Donc il en manque. Donc il y a deux hypothèses. La première, c'est qu'il investit moins qu'il le dit. C'est pas impossible, ça arrive dans les affaires, c'est la fameuse fake it until you make it. Faites semblant jusqu'à ce que vous y arriviez. Ou alors, il investit dans des projets souterrains, des projets cachés, et là, ça pose un vrai enjeu démocratique, un vrai enjeu de transparence, d'aller chercher où est-ce qu'il met ses millions d'euros.
J'ai vu qu'en 2022, pour la dernière présidentielle, Sterrin avait noté sur 10 les principales personnalités qui auraient pu correspondre à son idéologie. Personne n'avait émergé. Alors déjà, le procédé est quand même assez baroque, on va le dire. Comment il a procédé?
Ben, il a convoqué une partie du personnel politique de droite et d'extrême droite. Il leur a posé un certain nombre de questions sur ses critères. Notamment, la première, c'était souvent « Quel est votre business plan pour sauver la France sur 10 ans ?» Alors, vous imaginez la tête de Bruno Retailleau quand il lui a posé la question. À l'époque, il était encore au Sénat. Beaucoup sont ressortis en étant particulièrement choqués, secoués. Il a demandé à Marion Maréchal si elle avait déjà trompé son mari. Parce que ça va aussi là, hein, ça va sur les valeurs.
Si,
ça va
si
sur
l'importance. Si tel était le cas, il la soutiendrait pas.
En tout cas, ça fait baisser la note dans le logiciel de Pierre-Edouard Sterrin. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui note toutes les personnes qui rencontrent, pas seulement les politiques, sur 10. Donc j'ai une note quelque part, je pense, dans les dossiers.
Elle est haute, vous pensez? Vous pensez que j'ai une bonne note?
J'ai pas voulu savoir. C'est le genre de choses qu'il faut jamais demander. Lui-même s'est auto-noté un petit 8 sur 10. Et dans ses entreprises, il dit n'embaucher que des 9 sur 10 ou plus. Donc grosso modo, des polytechniciens, des hommes ultra diplômé.
Et parmi les politiques, personne ne lui a plu, du coup?
Personne n'a trouvé grâce à ses yeux, en tout cas, n'a répondu à l'ensemble de ses critères.
Face à vous, Camille, un homme rongé par le remords. Si seulement il avait su, en 2014, lorsqu'il a acheté cette box découverte du karting à tous ses collègues du Café Richard, que cet argent allait financer les délires d'un milliardaire d'extrême droite, il aurait fait comme moi. Il n'aurait pas offert de cadeau.
Oui.
Quentin, vous êtes allé dans la rue, mais c'est une stratégie gagnante, comme ça vous n'avez pas de remords après.
Bien sûr.
Quentin, vous êtes allé dans la rue pour prendre le pouls de la société, comme d'habitude. Alors, ce projet Périclès, on en dit quoi?
En partant enregistré, je regarde la photo du buste en marbre de Périclès sur Internet. Avec son casque de combat relevé sur le front, il a la barbe en forme de boucle. J'ai l'impression d'un retour en cours et puis un klaxon me sort un peu de ses pensées. C'est là que je tombe sur ce jeune homme. Pull bleu, col blanc qui dépasse, cheveux mi-longs. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous?
Louis.
Louis, vous avez quel âge?
J'ai 28 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis secrétaire chez Rothschild. Périclès.
De quoi on parle?
Un stratège? Un grec? Un grand homme.
Un grand homme. Je parle du projet Périclès, initié par Pierre-Edouard Sterrin. Il découvre l'acronyme.
Périclès, c'est un acronyme de patriote, enracinant, résistant. Ouais, chrétien, libéraux.
Après, tu vois, là, c'est des termes chrétiens et la chrétienté, elle est historiquement de gauche en France. Les Européens, c'est un mouvement qui part de gauche. Les libéraux, le libéralisme politique, c'est né à gauche aussi. Les résistants, mon grand-père, il l'était. Mon arrière-grand-père, il était de gauche. Enfin, il utilise les mots. Et je dirais même, il militarise les mots.
Un peu comme on a dit à l'époque, le FN ou le RN aujourd'hui, c'est approprier le drapeau.
Exactement, c'est ça. Quand tu vas aux États-Unis, tous les Américains qui ont leur drapeau, c'est pas forcément des mecs de droite ou d'extrême droite.
Je lui explique le projet Périclès, structuré, financé, en s'appuyant sur un réseau de médias et d'appui politique. Périclès cherche à façonner le débat en faveur d'idées conservatrices, nationalistes et chrétiennes.
Ouais, c'est de l'entrisme.
Ça va pas leur faire plaisir, ça.
Ça, c'est de l'entrisme. C'est comme ça qu'on appelle. Enfin, le mot est utilisé beaucoup par les mecs d'extrême droite pour qualifier les politiques de Mitterrand dans les années 80 pour que les islamistes ont fait de l'entrisme politique comme ça. Mais là, ça serait exactement pareil, mais à l'extrême droite, quoi. Moi, je pense qu'on vit en oligarchie. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que la plupart des pouvoirs sont concentrés dans la main d'une très petite famille, que le pouvoir, il se renouvelle très peu. Quand tu vois Emmanuel Macron, c'est juste l'héritier d'une grande. En tradition politique française, on appelle ça l'orléanisme politique. C'est juste les mecs qui associent le pouvoir et l'argent. Mais ça se fait depuis 200 ans. Donc, moi, je suis pour une 6ème République, qu'elle soit de gauche ou de droite, je m'en fous. Mais pour moi, il faut changer les institutions. Enfin, elles ont été faites par et pour Charles de Gaulle. C'est des trucs qui collaient à l'époque et qui collent plus du tout maintenant. Genre.
Je salue Louis.
Et il est toujours chez Rothschild depuis cet entretien.
Ça m'a un peu surpris,
sûr,
mais comme quoi,
c'est bien.
Il y a des rencontres surprenantes. Et je me fais arrêter par cette jeune femme. Un père orange avec un logo bleu, sac à dos dans le dos et grand sourire.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous?
C'est Laura.
Laura, qu'est-ce que vous faites là? Vous arrêtez les gens vous aussi?
Ouais, c'est ça, j'arrête les gens. Je recrute des donateurs pour le Secours catholique.
Ça marche?
Ouais, ça marche.
Est-ce que les gens sont gentils?
Pas tout le temps, mais quand ils sont gentils, ils le sont vraiment.
Alors à quoi ça lui fait penser?
Périclès. Et ça me fait penser à des Spartiates qui se battent. Ah bah oui, ça me fait penser à ce matin en fait. Du coup, on est arrivé sur le spot où on recrute des donateurs, juste en face du Monop. Et il y a des stickers carrés avec marqué Eros dessus. Donc voilà, c'est des fascistes et c'est un groupuscule qui me fait penser beaucoup à ça.
Effectivement, j'avais pas remarqué, mais sur les poteaux, il y a un petit sticker noir avec une écriture blanche. Un coup d'œil sur Instagram quand même. Collectif Eros, association de lutte contre les dérives LGBTQIA+, et la cancel culture. Effectivement, c'est pas Périclès, là c'est une divinité. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Elle découvre le projet Périclès qui nous intéresse aujourd'hui.
Nice, ça me terrifie. Surtout avec un contexte de France qui se fascise de plus en plus.
À quel âge toi ?
J'ai 25 ans. Bah, c'est compliqué de se projeter en ce moment, j'ai du mal. Mais je fais partie de pas mal de réseaux solidaires, du coup je crois en ça, et j'ai envie de faire du bien autour de moi.
Ma dernière rencontre marche d'un pas pressé, malgré le télétravail, il faut trouver du temps pour faire les courses, je l'emmène sur...
Périclès ? Je cherche la phrase de Jacqueline de Romilly, c'était elle la spécialiste de Périclès, donc c'était un général.
C'est quoi la phrase ?
Ce ne sont pas les murs qui font la cité, mais les hommes, c'est celle-ci que je connaissais.
Bon, très bien, mais normal, il n'a pas fait le rapprochement, alors il voit peut-être qui est Pierre-Édouard Sterrin ?
Oui. Et il a failli racheter Marianne.
Oui.
Voilà. Et les journalistes de Marianne ont refusé.
Vous savez comment il a fait fortune ?
Avec les Smartbox. Ah, il y a du lourd. Hein.
Ah, vous êtes fort.
On n'ira peut-être pas jusque-là, parce que bon, j'avais pas associé l'homme d'État grec à l'institut dont vous me parlez.
Et je lui parle de ces milliardaires, souvent d'extrême droite, qui rachètent des médias pour faire infuser leurs valeurs dans la société. Comment il voit ça, lui ?
Sur tout le spectre, en fait, parce qu'il y a aussi Mathieu Pigasse, ouais, qui a la même démarche. Pourquoi ils le font ? Parce que je pense qu'après, c'est le luxe ultime. C'est comme Tapie quand il a voulu être ministre alors qu'il avait la fortune. C'est le pouvoir, l'influence des idées, ce qu'on appelle le soft power, voilà. Xavier Niel qui rachète des médias et tout, alors qu'il a fait de la tôle. Voilà.
Avant de le laisser filer, je reviens sur Périclès, le général grec. Pour lui, il s'en sert comme une source d'inspiration.
Ouais, c'est ce qu'avait dit le général de Gaulle. Il avait dit qu'au fondement des conquêtes d'Alexandre, il y avait la sagesse d'Aristote.
Vous me balancez que des citations, quoi.
Bah ouais, c'est comme ça. Et moi, je repense à ce casque, celui du buste antique, relevé comme en veille, prêt à servir, le Périclès d'hier protégeait Athènes pour les arts et la parole. Celui d'aujourd'hui, bah, il sert de logo à une croisade idéologique, comme si le marbre avait changé de camp.
Merci Quentin. Camille Vigogne-Lecotte, est-ce qu'il y a un lien entre le Périclès de la Grèce antique, le personnage, et le projet de Pierre-Édouard Sterrin, ou c'est juste vraiment l'acronyme qui l'a amusé ?
Oh, je pense que le côté stratège est important dans le choix. Après, l'acronyme a une certaine utilité, on l'a vu. Non, dans les témoignages qui ont été diffusés, il y a un mot qui me semble hyper intéressant, c'est le mot d'entrisme. Parce que c'est une des grandes questions qui se posent concernant Pierre-Édouard Sterrin. On l'a dit, il y a tout ce qui concerne le volet associatif, le volet médiatique, mais il y a aussi un volet politique qui est très important chez lui. Est-ce qu'il a une influence réelle sur le Rassemblement National aujourd'hui de Marine Le Pen et Jordan Bardella ? Est-ce qu'il en a une auprès d'Éric Ciotti qui a un petit parti à côté de Marine Le Pen, ça c'est une question sur laquelle on travaille beaucoup. On a beaucoup de doutes et on a des éléments qui nous permettent de dire que oui, aujourd'hui il a cette influence, notamment à travers de personnalités qui travaillent à la fois pour Pierre-Édouard Sterrin et à la fois pour le parti d'extrême droite.
Là où c'est marrant d'utiliser le mot entrisme, c'est qu'aujourd'hui dans l'actualité on parle plus des frères musulmans que de Pierre-Édouard Sterrin. Donc forcément,
je serais tentée de dire que l'entrisme des milliardaires catholiques en France est peut-être, en tout cas, vise une strate de l'État un peu plus élevée que celle des frères musulmans. Mais c'est pas, on parle de deux choses évidemment radicalement différentes, mais ils ont une influence qui est certaine, qui est difficilement mesurable et qui est inquiétante parce qu'elle est cachée.
Est-ce qu'il n'y a pas une inspiration qui lui vient aussi des États-Unis et de tout ce que Donald Trump a fait ces derniers temps ?
Oui, l'influence américaine, elle est réelle. Il a l'admiration pour Elon Musk. Il dit qu'il faudrait des Musk européens qui, notamment, libèrent l'État. Enfin, c'est un truc qui est très important aussi chez lui, c'est que c'est un vrai libertarien. Mmh. Il est, en tout cas, du point de vue économique, organisation de l'État, il serait pour privatiser l'éducation, le système de la santé. Ouais. Il justifie, il assume vraiment son exil fiscal pour dire je sais mieux que l'État comment utiliser cet argent et donc je décide de le réinvestir dans du caritatif ou du métapolitique parce que mon argent est mieux utilisé comme ça.
C'est un Elon Musk catho, quoi.
Oui, parce qu'il n'y est pas du tout, en revanche, sur des délires de
coloniser Mars,
ou d'améliorer la vie, etc. Ouais. Enfin voilà, on n'est pas dans le transhumanisme du tout, pareil. Ça, c'est une grosse différence.
Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Des milliardaires qui mettent leur fortune au service de leurs idées, ce n'est pas nouveau. On va commencer par Wolfgang Lui, le grand-oncle germanophile de Quentin, qui, en raison d'une soi-disant allergie aux herbes du maquis, ne put rejoindre la résistance, mais dont le sens des affaires lui ouvrit de belles opportunités dans les années 40.
Quelle insulte à la famille.
Il fut suivi par Spencer Lui, le tonton, milliardaire de Quentin, qui lui a mobilisé tout son argent pour son combat, infiltré France Inter pour réhabiliter la France des territoires, via Quentin, son cheval, enfin son poney de Troie.
Bonjour, je suis le shérif Klein, plus connu sous le nom de shérif Sartois sur TikTok.
Et oui, Quentin, vous êtes le jouet de puissance financière qui vous dépasse.
Oui, bien sûr.
Mais vous n'êtes pas le seul. Shetland de toi. Mais vous n'êtes pas le seul, comme on va le découvrir dans le Zoom Zoom Test. À la découverte donc aujourd'hui de ces milliardaires qui influent le débat public. Et tout d'abord, direction l'Angleterre. Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni quitte unilatéralement l'Union Européenne. Un bon début, dira Cyril, pour qui un bon anglais est un anglais mort, faisant sienne la devise de Gonzague, son ancêtre, blessé à la bataille de Waterloo, après s'être fait les croisés en fuyant l'ennemi.
Un Brexit.
Un Brexit que l'on doit en partie à l'action discrète de quel milliardaire ? Rupert Murdoch, qu'on ne présente plus ? James Dyson, le gars des aspirateurs ? Ou George Soros, qui, en dépit des apparences patronymiques et du bon sens, n'est pas grec ?
B.
Alors, l'un me dit A, l'autre me dit B, ouais. Je vous donne l'opportunité d'une autre réponse.
Les trois.
C'est une catastrophe. C'est incroyable, puisque même au-delà du temps, c'est faux. C'était A et B. Rupert Murdoch et ce filou de James Dyson ont œuvré discrètement en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. À noter que nombre de milliardaires pro-Brexit ont ensuite courageusement quitté le pays parce que c'était le bordel. C'est ce qui s'appelle faire une curielle. Ce n'est pas le cas de George Soros, au contraire. Un europhile convaincu, George Soros.
Vous n'écoutez pas avant.
Et allez, la balle perdue.
On l'embrasse quand même si par hasard il tombe sur France Inter. Donc George Soros, une sorte de Clément Beaune en riche, qui adore l'Union Européenne et certainement l'Eurovision. Soros qui s'est également particulièrement investi dans la dernière campagne présidentielle américaine. En achetant des espaces publicitaires sur Fox News 10 fois leur prix pour y diffuser des clips de campagne de Kamala Harris. En produisant The Apprentice, le biopic sur Trump. Ou en achetant le deuxième réseau de radio pour semer la graine du wokisme.
B et C.
Non mais alors, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, sinon à ce moment-là, dites-moi ABC, on ne sortira pas.
Les trois ?
Non, je vous donne l'opportunité d'une bonne réponse.
Moi j'ai dit B.
Vous dites A et B, Eh bien c'était la réponse, on est toujours dans la nullité absolue, effectivement.
Mais vous nous en disiez, on est là.
D'ailleurs, ils vous ont lancé Amazing Grace, pour vous féliciter, il n'y a que Dieu qui peut intervenir. À 8 mois de la présidentielle américaine, le milliardaire s'est offert un réseau comptant 220 radios et des milliers de podcasts en rachetant le groupe Audacy en difficulté et ainsi pesé sur l'élection. C'est ce qui s'appelle un investissement peu rentable, mais qui donne des idées, puisqu'en France, d'aucuns disent que Spencer Lui, le tonton retailliste de Quentin, serait prêt à monter au capital de l'audiovisuel public à la condition que chaque JT se termine par ces mots « Merci de nous avoir suivis » et surtout « Merci à
Jésus-Christ notre sauveur »
et que tous les JT soient évidemment présentés par Cyril Lacarrière. Mais justement, on reste en France où, au risque de vous choquer, je vous annonce qu'un Américain fait la pluie et le beau temps dans le game politique, et ce depuis au moins une dizaine d'années, et en plus de façon complètement transparente et légale. Mais comment est-ce possible, s'étrangle Cyril en régie ? C'est possible parce que cet Américain, c'est qui ? C'est le spécialiste du merchandising politique, on lui doit notamment les t-shirts Les Jeunes avec Fillon et les mugs La République c'est moi, où il vend un logiciel de gestion de campagne utilisé par tous les bords politiques, où c'est le créateur des pupitres avec prompteur de discours intégré.
B.
C'est aller plus vite dans la tête de Quentin, ce qui est assez rare pour être souligné.
Il a moins deux déjà, c'est pas grave.
Et c'est une nouvelle pierre.
Pourquoi j'aurais
il l'a annoncé au début.
C'est vrai que vous étiez parti avec... C'est toujours Manon qui mène 0 à moins 1. Réponse B. Effectivement, c'est une nouvelle pierre à l'édifice déjà immense du gai savoir dans ce Zoom Zoom Test. Je vous présente Nation Builder, un logiciel créé par Joe Green, qui était avec Mark Zuckerberg à l'origine de FaceMash, l'ancêtre de Facebook, fin stratège.
L'ancêtre misogyne de Facebook.
Complètement misogyne. Fin stratège, il avait lâché Zuckerberg et passé donc à côté de 400 millions de dollars. Mais en 2009, il rebondit, il crée Nation Builder, une plateforme combinant la création de sites internet de campagne, la gestion des bases de données des militants et la possibilité aussi d'envoyer des messages de propagande électorale. Véritable couteau suisse qui a été utilisé par qui d'après vous ? Éric Zemmour, Anne Hidalgo et Donald Trump ? Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Jacques Cheminade ?
Pardon.
Ou Jean Lassalle ?
J'avais oublié.
Jean Lassalle, Francis Lalanne et le Parti du Plaisir.
A.
B.
B.
B. Ah. Ouais, c'est Mince. B.
Bon, ça peut être encore autre chose.
Bah, A et B.
A et B, oh oui, Manon, miracle, une bonne réponse enfin dans ce quiz. Oui, si les politiques ont du mal à se mettre d'accord sur des sujets anecdotiques comme l'âge de la retraite ou le droit du sol, heureusement, dès qu'il y a des enjeux forts comme l'utilisation de vos data pour vous faire voter, le consensus est là. Quant à Francis Lalanne, il aurait voulu utiliser lui aussi ce logiciel, il a juste pas eu le temps.
Oula, Francis est tombé.
Et oui. Et pour finir, c'était un petit plaisir juste pour vous. Et pour finir, quel milliardaire français, véritable mentor, le véritable mentor de Cyril Lacarrière, et ce bien avant ce jeune paltoquet de Bolloré, a été le premier à s'offrir un journal pour servir son ambition politique? Frédéric Lefebvre avec Pif Gadget? Jean-Luc Lagardère avec Paris Match? Ou Serge Dassault avec Le Figaro?
Si.
Ouais, je pense.
Y avait-il un piège?
Ben non.
Non, c'était un petit cadeau pour Quentin. L'occasion pour Cyril d'honorer la mémoire de son père spirituel, petit ange du capitalisme parti trop tôt, puisque...
Jésus-Christ, notre sauveur.
Veille sur lui. Victoire, mais victoire absolument pas de Quentin, comme on me souffle en régie.
Non mais oui, ils n'ont pas retenu les
pénalités, évidemment. Tout ça, victoire de Manon,
attendez,
évidemment.
Tout ça Mathieu. Parce que j'ai dit que vous êtes parti un peu tard d'Europe 1.
Oui, ça m'a fait...
Oui, bah, vous n'étiez pas dans les premiers, Mathieu.
Ça fait saigner mon petit cœur. Ah oui, oui, ça me fait beaucoup
plaisir. Vous avez perdu votre fiche, Mathieu.
J'ai perdu ma fiche, c'est pour ça que je brode un petit peu, mais ça se sent à peine. Franchement, très franchement, personne n'entend que je brode. Jusqu'où ira Pierre-Édouard Sterrin? Zoom cet après-midi sur le projet réactionnaire Périclès. On est toujours avec la grand reporter au Nouvel Obs, Camille Vigogne-Lecoat. Camille, il faut parler de la personnalité un peu de ce Pierre-Édouard Sterrin. On en a dit quelques mots. Dans l'article que vous lui consacrez, vous rappelez ces petits tableaux Excel qu'il remplit de ses notes sur les personnalités politiques. Vous dites qu'il ne cache pas ses traits autistiques. Comment ça se traduit quand on le rencontre?
Ça se voit pas au premier abord. Il me l'aurait pas dit. Je l'aurais pas deviné. En revanche, en connaissant, en ayant enquêté sur lui, effectivement, il y a des choses qui surprennent et qu'on n'est pas habitué à voir en politique. Donc déjà, il y a cette manie de noter toutes les personnes qu'il rencontre, hein, pas seulement les élus, les politiques, dans un tableau Excel. Pour se souvenir, il dit que ça l'aide, ça facilite d'attribuer une note en fonction du potentiel, du QI, du niveau intellectuel qu'il attribue à la personne avec laquelle il est.
C'est terrible de noter les gens.
Il dit même qu'il a même noté sa femme et que c'est comme ça qu'il l'a choisie.
Mais voilà,
alors, il explique ça très posément, très gentiment, en disant c'était une tentative de rationaliser mon coup de foudre, mais c'est comme ça. Mais quand il présente aussi ça à ses investisseurs pour montrer à quel point c'est une sorte de machine de calcul. Alors lui dit qu'il s'est auto-diagnostiqué autiste avec des traits comme effectivement le côté très très organisé. Il a aussi du mal à avoir de l'empathie, qu'il est sensible à la lumière, au bruit. Enfin voilà, c'est un ensemble de faits qui dit que selon lui et selon sa femme, il serait autiste. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est surprenant. Notamment, il a une sincérité quand on lui pose des questions.
Il est très cash.
Mais c'est un milliardaire qui n'a pas de communicant à côté de lui pour vous répondre.
Il n'a pas d'éléments de langage.
Des SMS, il vous reçoit en tête à tête, il vous consacre 3 heures de son temps. Il élude parfois certaines choses, mais il ment peu. Et donc, rien que ça, c'est déjà assez surprenant quand on fait de la politique.
C'est quelqu'un qui optimise tout dans sa vie et il note tout. Il note aussi les pays pour la fiscalité. Et la Belgique a une bonne note, visiblement.
La Belgique a une bonne note. Il est parti au moment où François Hollande est arrivé au pouvoir en France par peur des impôts. Et il n'est
Cyril
pas revenu
aussi,
ensuite. Il n'est pas revenu ensuite. Il présente ça comme un sacrifice. Un sacrifice personnel. Il dit qu'il a beaucoup sacrifié, que la France lui manque, que sa femme est en manque de son sud-ouest natal et que s'il l'a fait, c'est pour œuvrer au bien commun parce que l'argent économisé est réinvesti dans des projets philanthropiques et politiques.
Oui.
Vous parlez d'une école de formation au mandat de maire financée par Pierre-Édouard Sterrin et qui s'appelle Politicae. Plusieurs centaines de milliers d'euros doivent y être investis d'ici au scrutin municipal, donc l'an prochain. L'objectif à court terme de Sterrin, c'est de faire élire des maires dès l'année prochaine qui vont dans le sens de son projet, c'est ça pour vous?
Oui, alors là aussi on peine à mesurer l'impact que va avoir ce projet, mais c'est le gros projet à l'intérieur de Périclès. Il part du constat qui n'est pas un constat erroné, qu'on manque au niveau local de personnalités, déjà de candidats tout simplement au poste de maire, qui est un mandat très difficile, que par ailleurs à droite et à l'extrême droite, et surtout à l'extrême droite, la formation des cadres n'est pas satisfaisante. Moi j'ai beaucoup travaillé sur le Rassemblement National et c'est une arlésienne au parti, c'est vraiment, on sait que nos cadres ne sont pas au niveau, on n'a pas assez de cadres et ils ne sont pas d'un niveau suffisamment important pour, quand ils arrivent, à leur arrivée à la tête d'une municipalité, que ça se passe bien. Donc là, c'est à la fois un cursus idéologique, mais c'est surtout un cursus pratique pour faire en sorte que les candidats, qu'on imagine déjà très à droite de Politicae, en sortent avec un bagage suffisant pour pouvoir l'emporter et pour ne pas faire n'importe quoi une fois qu'ils gèrent une collectivité.
Et quels sont ces liens avec Emmanuel Macron? On sait s'ils se connaissent, s'ils se sont déjà rencontrés?
Non, à l'Élysée, on a bien en tête PES, ces trois lettres qui désignent son acronyme, on sait qui c'est, on surveille évidemment, enfin en tout cas on regarde un œil sur son projet, parce qu'on a tous en tête le précédent, qui est celui de Vincent Bolloré, qui est en partie un modèle pour Pierre-Édouard Sterrin. Ils se connaissent.
Mais ils sont pas dans, ils boxent un peu dans la même catégorie. Est-ce qu'ils cherchent la même chose?
Beaucoup plus riche, si on doit dire. C'est un petit milliardaire, Pierre-Édouard Sterrin. Vincent Bolloré est beaucoup plus riche. Et puis là, lui, on parle pas de quelque chose de nébuleux. Il a un empire médiatique qui est capable d'imposer ses idées, ses thèmes, de faire un candidat, ça se discute, mais potentiellement d'en défaire un. Voilà, on n'est pas sur une influence.
Mais c'est un exemple du coup, un peu
construction. C'est en partie un exemple. Il le dit, il s'est dit. Alors par ailleurs, c'est des personnalités qui sont extrêmement différentes, qui fonctionnent pas du tout de la même façon. Mais dans les convictions, il y a des choses qui les rapprochent, notamment cette vision d'un catholicisme identitaire qui est vraiment quelque chose d'enraciné, qui explique pour l'un comme pour l'autre tout un tas d'investissements et de projets capitalistes.
Il a raté Marianne ? Son prochain objectif dans les médias, c'est quoi ?
Ah, il n'a pas seulement raté Marianne, hein, parce qu'en fait, au début, on avait aussi dit qu'il voulait racheter Editis en s'associant avec deux autres. Ensuite, il y a eu des vues sur Valeurs Actuelles. Enfin, très souvent, en fait, dès qu'il y a un titre comme ça qui est réputé en vente, il se renseigne. Alors après, c'est aussi un négociateur compliqué. Il ne dépense pas sans compter son argent du tout. Il regarde, un sou est un sou. Il dit même que malgré sa richesse, il continue au restaurant de regarder le menu et de ne pas prendre le palat le plus cher, etc. Donc c'est quelqu'un qui fait attention à l'argent.
Ah bon, on a envie de le connaître.
Qui vit plus comme un bourgeois de province que comme un milliardaire finalement dans sa vision, dans son rapport à l'argent également. Ça c'est notable.
Contrairement à Pierre-Édouard Sterrin, vous écoutez France Inter. Ça, je crois
j'ai
que,
pas
voilà.
posé la question, mais je suis sûre qu'il écoute pas France Inter.
Je me suis dit que ça devait être ça. Manon, l'heure de découvrir l'autre personne à suivre.
Je vous présente Thibaut Brutin. Il a 37 ans, il est français et il est depuis juillet 2024 le directeur général de Reporters sans frontières, l'une des ONG les plus influentes au monde en matière de liberté de la presse. Diplômé de Sciences Po Paris, il commence sa carrière en 2010 comme chargé de mécénat au musée du Louvre. Puis en 2014, il rejoint RSF, d'abord pour s'occuper du développement, puis pour piloter les affaires publiques. 4 ans plus tard, il devient chargé de mission auprès du directeur général Christophe Deloire, dont il deviendra l'adjoint en 2021. Après le décès brutal de Deloire en 2024, il est donc nommé à la tête de l'organisation. Ce qu'il veut, un RSF plus stratégique, plus juridique et plus offensif, notamment en France. Il se considère comme un amoureux déçu de l'ARCOM. L'un des coups de force de Thibaut Brutin, c'est d'ailleurs le contentieux contre l'ARCOM. En novembre 2021, Reporters sans frontières saisit l'autorité de régulation pour mettre en demeure la chaîne CNews pour manquement à ses obligations légales d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme de l'information. Selon Stratégie, dans l'ombre de Christophe Deloire, c'est lui qui prépare le recours en justice. Et en février 2024, le Conseil d'État donne raison à RSF. L'ARCOM doit revoir en profondeur sa façon de contrôler le pluralisme dans les médias audiovisuels, dont CNews. Depuis, c'est devenu l'un de ses combats. Thibaut Brutin reproche au régulateur de traiter les symptômes, à savoir les dérapages, sans jamais s'attaquer aux causes, donc le verrouillage idéologique de certaines chaînes. Il s'attaque aussi aux dérives médiatiques dans les démocraties, en particulier à celle du groupe Bolloré. En mars 2025, il coordonne une enquête révélant que plus de 500 journalistes ayant quitté des médias du groupe ont signé des clauses de confidentialité. Ça doit vous dire quelque chose, Mathieu. En juillet, RSF publie une vidéo pour dénoncer une tentative de déstabilisation orchestrée par Progressif Média, une agence de médias dans laquelle Vivendi est actionnaire. L'ONG y dénonce les menaces de haine en ligne dont elle est victime, des attaques relayées par certains médias du groupe Bolloré. Le JDD, par exemple, les a traités de fossoyeurs de vérité. Mais avec leurs vidéos relayées sur leur réseau, RSF a accumulé plus de 600 000 vues en seulement 5 jours. Un succès qui conforte Thibaut Brutin dans sa stratégie de renforcer la présence de l'ONG auprès du grand public, notamment sur les réseaux sociaux, car on le sait, aujourd'hui, c'est là où tout se passe.
Merci beaucoup, Manon. Camille Vigogne-Lecoat, on a reçu le patron de l'ARCOM hier ici, et c'était d'ailleurs passionnant. Quel peut être son rôle face à des milliardaires idéologues comme ça ?
Il y a un rôle de contrôle, un rôle de vérification, mais plus largement, je pense que c'est collectivement, il faut qu'il y ait une éducation aux médias, une éducation à la vérification des faits. Ce que fait RSF est absolument essentiel, d'autant plus qu'aujourd'hui, on peine souvent à retrouver, je trouve, la source des informations qui sortent. Je prends un exemple, quand on travaillait sur Pierre-Édouard Sterrin avec Lucas Burel, on s'est intéressé à une étude qui disait qu'il y avait 580 millions de personnes éligibles dans le monde au droit d'asile en France. 580 millions, c'est absolument gigantesque. Et en fait, c'est une étude qui a été présentée dans tous les médias de droite comme extrêmement neutre, publiée par un organisme qui s'appelait l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Quand on va sur le site, on a l'impression que c'est l'INSEE, quoi. C'est un truc quasi étatique, etc. Or, c'est un organisme qui est financé par Pierre-Édouard Sterrin. L'étude, elle est présentée comme inattaquable dans le Point. Ensuite, elle est reprise dans le JDD, elle est reprise dans tous les médias du groupe Bolloré, jusqu'à ce que les porte-paroles du Rassemblement National s'en saisissent. C'est un exemple parmi d'autres d'un cas de désinformation médiatique.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Demander à Pierre Courade de nous livrer un résumé critique du projet Périclès du milliardaire réactionnaire Pierre-Édouard Sterrin, c'est comme demander à Stéphane Plaza d'ouvrir le Grenelle sur les violences faites aux femmes. C'est assez osé, mais j'assume. Pierre, à vous donc de nous résumer en une minute chrono ce projet Périclès que vous connaissez bien, puisque vous l'avez partiellement rédigé.
Et justement, difficile du coup de résumer en si peu de temps un projet qui va au-delà de l'idéologie politique d'un homme, mais qui est réfléchi pour conquérir et conserver le pouvoir en France. Heureusement, Périclès condense en lui seul toute la vision politique de son vrai concepteur, le milliardaire Pierre-Édouard Sterrin. Périclès est en effet l'acronyme de patriote, enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européen, souverainiste. On comprend déjà que Pierre-Édouard Sterrin ne passera pas une tête à la Wheel of Green ce week-end. Notre invité, la grand reporter au Nouvel Obs, Camille Vigogne-Lecoat, a enquêté sur cet entrepreneur mystérieux qui a fait fortune dans les box cadeaux, qui propose des activités et qu'on oublie souvent au fond du tiroir. Eh bien, c'est grâce à elle que Pierre-Édouard Sterrin finance aujourd'hui son projet Périclès, qui se décline dans un certain nombre de secteurs de la société, notamment politique, avec par exemple une école qui forme les futurs maires, les municipales de l'année prochaine. C'est en effet la première grande bataille électorale dans laquelle il veut lancer son projet avant de viser plus haut. Pour cela, il note comme un prof les différentes personnalités politiques, généralement de droite ou d'extrême droite, qui pourraient porter ses idées réactionnaires. Pour le moment, personne ne se dégage, même si on connaît ses accointances avec Éric Ciotti ou le Rassemblement National. Mais le projet métapolitique Périclès, c'est aussi un réseau de relais sur le terrain. Il finance des petites associations, une stratégie d'entrisme pour faire infuser ses idées dans la société. Jusqu'à la prochaine étape affichée, acheter un institut de sondage et un média. Ça se bouscule dans la sphère réac à 2 ans de la présidentielle.
Merci Pierre pour cet excellent résumé. Camille, pour finir, il a vraiment pas de champion pour 2027 ?
Alors, il n'a pas de champion attitré officiel, mais il a des partis qu'il a identifiés comme étant ceux présentant le plus fort taux de retour sur investissement, pour utiliser un vocabulaire d'entrepreneur. C'est évidemment le Rassemblement National, parce que le plus beau coup de Périclès aujourd'hui, il a un nom, il s'appelle François Durvie. François Durvie, c'est le bras droit de Pierre-Édouard Sterrin, c'est le président, le DG de son fonds d'investissement, Autium, et depuis quelques mois, c'est aussi, je fais son portrait pour le Nouvel Obs, le conseiller économique de Marine Le Pen et de Jordan Bardella.
Ah oui, donc là, il est dans
c'est
la bergerie.
C'est lui qui a comme rôle de modifier le programme, en tout cas d'aider à sa conception pour la prochaine présidentielle, pour qu'il fasse moins peur aux chefs d'entreprise et aux milieux patronaux. C'est lui qui accompagne Jordan Bardella quand il va au MEDEF, c'est lui qui lui présente la personne qui l'aidera à publier son livre au sein du groupe de Vincent Bolloré. C'est quelqu'un d'extrêmement important. Alors on nous dit pas du tout. Il fait une séparation totale entre ses activités chez Pierre-Édouard Sterrin et ses activités auprès de conseil auprès de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Il n'empêche que on a un peu de mal à imaginer, sachant que le projet Périclès est un projet qui vise à influencer la politique, comment le bras droit de Pierre-Édouard Sterrin se retrouve avec le bras droit, un des bras droits aujourd'hui, de Bardella et de Le Pen.
Cyril Lacarrière nous le disait, la voix chevrotante en préparant cette émission. On n'a rien fait pour mériter Gigi Pop. Épuisement du vieux sage face au jeu de mots calamiteux de l'humoriste ou aveu de tendresse pour le prince de la vanne qui sauve chaque émission dans laquelle il intervient. On ne saura jamais ce qu'il a voulu dire vraiment. Toujours est-il qu'il est là pour la 9e fois dans ce studio. Il le répète à chaque fois, peut-être pour la SACD.
Il compte, il pointe.
Un Gigi Pop plus studieux qu'à l'accoutumée.
Oui, alors bonjour à tous, bonjour Camille. Pas le temps pour l'intro aujourd'hui. Avant de commencer à parler de ce sujet brûlant, permettez-moi de citer Maxime Le Forestier qui, dans son Ode à la tolérance, né quelque part, disait en 1987. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Eh bien, je l'ai appris à mes dépens en 2025, on ne choisit pas non plus ses sujets de chronique, Camille. Pas plus tard que la semaine dernière, et dans ce même micro, j'appelais Raphaël Nadal « Nadal de lentilles », et il n'en fallait finalement pas plus pour qu'on me file enfin un sujet sérieux. Et qui dit sérieux, dit chronique sérieuse aussi dans le texte qui va suivre. Pas de jeu de mots, pas de bruitage, aucun moment gênant. Et à la manière de la braguette à Nicolas Bedos, je vais demander à l'équipe autour de cette table de ne pas me tirer vers le bas. C'est parti. Aujourd'hui, on parle du projet Périclès, initié par Pierre-Édouard Sterrin, milliardaire conservateur, projet qui est hélas une pâle copie, puisqu'il y a quelques années, j'avais initié un projet pour mettre des gros toutous au pouvoir, que j'avais intitulé le projet Bon Pépériclès. Eh oui ! Vous aviez
vraiment cru que j'allais passer derrière ce micro sans placer un jeu de mots lamentable. Et non, j'ai simplement utilisé la technique ancestrale de l'extrême droite en faisant croire que j'avais changé alors que pas du tout. Pour reprendre Maxime Le Forestier, être né quelque part, c'est partir quand on veut et revenir quand on part. Alors je suis de retour avec mon intro parce que je sens que vous étiez tous décontenancés là. Oui. Salut, c'est Guigui, deux fois Guigui, ainsi que Guigui, double Guigui, puis Guigui, comme Guigui, vous dites Guigui, ok. Guigui, 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 comment je m'appelle
Guigui. Voilà, retour à Périclès. Déjà, première analyse lue dans le magazine Guigui Sociaux. Périclès, c'est un prénom qu'on donne plus trop en 2025. Contrairement au prénom Timéo, qui fait une belle remontada dans le cœur des Français. Mais surtout, Périclès, on le rappelle pour l'acronyme patriote, enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européen, souverainiste. Alors, je ne suis pas dans la com, mais ça aurait pu s'appeler aussi le projet FUN. Oh bah disons, c'est la fiesta, on s'éclate, et oui. Je vous cache pas qu'en tant que leader charismatique, j'ai hâte que dans 2500 ans, quelqu'un crée le projet Guigui. G comme gentil, U comme unique, I comme imprévisible, G comme génial, U comme humble, et I comme il sait vraiment pas lire ce con. On se demande souvent quel rêve on réaliserait si on gagnait à l'euro million. Et toi, Pierre-Edouard, tu t'es dit qu'avec tes millions, tu lutterais contre le wokisme. Oh là 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 là. Mais va faire le tour du monde, mon Pierre-Ed, laisse-nous tranquille, détends-toi. Alors Pierre-Ed, c'est le nom qu'on lui donne dans la street, et la street, c'est l'endroit où il n'a jamais mis les pieds. Car selon l'article publié cette semaine dans mon journal intime, il est effectivement blindé à la race. Ça t'avait pas suffi d'avoir gâché la magie de Noël à tout jamais en créant les smartbox, Pierre-Edouard? Ah oui? Parce que je sais pas si t'es au courant, mais selon mes sources, depuis le début de l'espèce humaine, personne n'a jamais prononcé la phrase « Oh putain, mais trop bien une smartbox, j'en rêvais !» Mais tu sais, Pierre-Ed, nous ne sommes pas que deux businessmen au livret A bien rempli. J'ai finalement de la compassion pour toi. Ce projet Périclès sonne comme un appel à l'aide de quelqu'un qui ne comprend plus du tout le monde qui l'entoure. Et j'ai vécu ça moi aussi, en arrivant au collège. J'étais tellement une quiche en maths que ma mère m'a payé des cours particuliers. Toutes les semaines, de la 6e à la 3e. Et arrivé au premier contrôle de seconde, l'investissement a porté ses fruits. Miracle ! J'ai eu 0 sur 20, comme un énorme clébard. La morale de cette histoire, Pierre-Edouard, c'est qu'on peut payer 30 euros de l'heure sur 4 ans pour résoudre des équations, ou mettre 150 millions d'euros sur 10 ans pour mettre l'extrême droite au pouvoir, on n'arrive pas forcément à ses fins. Et heureusement pour la France, l'argent ne résout pas tout. Ou devrais-je dire, l'argent ne résout pas tout tout ?
J'ai surtout pas changé, pas du tout. Merci,
non,
c'était Guigui.
Ne changez jamais, mon cher Guigui. On vous retrouve très bientôt. Je peux pas vous donner la date exacte. Faut qu'on regarde, mais très bientôt, ça je peux vous le promettre.
Merci, c'est plaisir.
Merci.
Fin juillet. Dans
le creux de l'été. Merci Camille Vigogne-Lecoët de nous avoir éclairé sur ce projet Périclès. Je rappelle le titre de votre enquête parue dans le Nouvel Obs, Pierre-Edouard Sterrin, Saint-Patron des Réacs. Zoom Zoom Zen.